Alors, vous avez un petit peu parlé, évoqué les sujets. Comment vous avez découpé le livre, comment vous l'avez chapitré?
Il y a trois grands thèmes. Je parle essentiellement, j'entre par le sujet des transitions, parce que nous vivons des transitions qui peuvent être heureuses, malheureuses, qui peuvent être faciles ou difficiles. Ce sont les transitions environnementales, les transitions sociales, les transitions démocratiques. Environnementales, parce que nous savons bien qu'il y a une urgence, c'est de travailler pour faire en sorte que le climat ne change pas trop, même si nous savons que dans les dizaines d'années à venir, nous allons subir ce que nous avons mis dans l'atmosphère depuis des dizaines d'années. On parlait de Giscard il y a quelques instants, c'est la fin de ces années où on ne se préoccupait pas de la finitude du monde. Et puis les enjeux, bien entendu, d'eau, de biodiversité, de terre. Et quand on est en Bretagne, on est forcément mobilisé sur ces sujets. Transition sociale, parce que si on traite de l'environnement sans parler du social, il n'y a pas de solution. Il faut penser aux hommes et aux femmes, il faut penser aux métiers qui changent, aux emplois qui peuvent disparaître, aux fragilités, aux fractures, aux plus faibles ceux qui perdent leur emploi, aux plus faibles nos plus anciens, nos aînés, aux plus faibles dans les plus petites communes de Bretagne ou dans les territoires plus isolés de Bretagne. Je pense par exemple à la Cornouaille, au centre-Bretagne ou au Coglet. Ce sont des territoires où il faut de la politique pour accompagner ces territoires. Et puis transition démocratique, parce que nous avons à réfléchir à comment nous voulons travailler ensemble, comment nous voulons assumer nos responsabilités ensemble. Et donc je pose des sujets sur les mandats, la manière d'exercer un mandat politique, le rôle des partis politiques, le rôle des militants, qu'ils soient du monde associatif ou du monde des partis, pour faire en sorte d'essayer de répondre par des mots simples pour expliquer la complexité et expliquer que nous devons accepter cette complexité pour assumer encore une fois les enjeux qui sont devant nous.
Vous parlez de la complémentarité de l'État et de la région, parce que tout est centralisé sur Paris, en gros. Hein.
Oui, tout est centralisé sur Paris et c'est un drame. Pour moi, c'est un drame. Je pense que certains auront deux lectures dans la crise que nous vivons. Certains diront qu'il faut renforcer l'État. Moi, je pense qu'il faut au contraire faire en sorte que l'État soit plus agile. Et pour qu'il soit plus agile, il faut qu'il travaille avec ses territoires, avec les régions, avec les collectivités qui sont au plus proche des habitants. Parce que les solutions que nous mettons en place en Bretagne ne sont pas les mêmes qu'en Île-de-France, ne sont pas les mêmes qu'en Bourgogne-Franche-Comté, parce que nous avons des histoires différentes, des cultures différentes, des territoires différents. La mer, c'est pas la montagne. L'agriculture bretonne ne ressemble pas à l'agriculture des Hauts-de-France. Et donc, les solutions doivent être différentes. Et ce qui est malheureux dans notre État centralisé, c'est que la République une indivisible produit des normes et des lois identiques qui ne peuvent pas être différenciées en fonction des territoires. Alors, je ne parle pas, bien entendu, de la fiscalité ou de tout ce qui touche aux libertés. Là, nous sommes heureux d'être en République et heureusement que nous avons cette égalité-là. Mais je parle bien de l'aménagement du territoire, de la formation, de l'économie, de tout ce qui permet d'adapter le territoire aux situations et de gérer les crises ou de saisir les opportunités, encore une fois, au plus proche des territoires, sans passer par le texte législatif ou la décision d'un ministre ou de son cabinet.
Certaines régions comme en Europe, comme l'Allemagne ou l'Espagne, sont plus fortes. Vous seriez pour un État fédéral ou pas du tout?
Je pense que entre l'État fédéral et l'État jacobin, il y a plein de degrés. Si déjà nous avions effectivement la capacité d'avoir un pouvoir réglementaire pour adapter des textes nationaux dans nos territoires, pour les adapter à la situation de notre territoire, ce serait déjà une avancée considérable. Si nous étions capables d'avoir des budgets stables et à la hauteur des ambitions qu'on doit avoir dans les territoires pour les projets qui sont les nôtres, nous pourrions assumer nos responsabilités. Ça, c'est un enjeu sur lequel on doit travailler. Après, le sujet du fédéralisme est un sujet plus vaste encore. Intellectuellement, il me séduit plutôt. Maintenant, la France est telle depuis des dizaines et des dizaines d'années que passer d'un État A à un État B pour faire en sorte de pas trop subir, ce n'est pas si simple. Et je pense que des nouveaux pas dans une décentralisation affirmée avec quelque part des territoires qui assument leurs responsabilités serait déjà un effort considérable pour l'État central, je le perçois bien.
Revenons à ce livre, il y a eu des collaborations, il y a eu des gens qui ont participé qui ont collaboré.
Oui, j'ai eu l'honneur d'avoir la participation effectivement de deux autres personnages importants en Bretagne, en plus d'Éric Orsenna. Il y a Gilles Huette qui a été président d'Eau et Rivière Bretagne, association ô combien importante qui a participé à la prise de conscience en Bretagne sur le sujet de l'eau et donc les sujets de la production agricole. Et puis Emmanuel Etis, qui est un homme de culture, mais qui est aussi recteur et qui, quelque part, participe à l'excellence bretonne, puisque l'école en Bretagne est quelque chose d'important. L'école, c'est plus que l'école, c'est le lieu où on apprend à vivre ensemble, le lieu où on apprend la confrontation à l'autre, et puis le lieu où on acquiert des compétences et des savoir-faire. Et donc, le fait qu'Emmanuel Lettis ait accepté de me faire un mot, me faire un texte dans ce livre était quelque chose d'important, surtout qu'il est en plus président de l'Institut d'éducation artistique et culturelle à Guingamp, qui est en train de se monter, comme quoi la Bretagne, encore une fois, a de belles capacités à produire de la connaissance au service du reste de la France, puisque cet institut à Guingamp va servir le territoire national tout entier.